Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se mêle l'apôtre. Cette phrase est notre devise, notre devise. Biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête. La poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre. Voilà notre philosophie, philosophie. Biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
Notre émission de ce jour est la première d'une nouvelle série de 4 émissions consacré à Charles Janin. Charles Janin est un Vénitien de toujours, âgé de 84 ans en 2010 au moment de cet entretien. Il n'avait donc pas encore 18 ans en début 1943 quand, jeune travailleur vénitien, il devient résistant à l'occupation nazie. Arrêté, comme il nous le contera, le 18 mars 1944, il échappe à l'exécution et est emprisonné, puis déporté en Allemagne. Il connut divers camps de concentration jusqu'à sa libération fin avril 1945. Plus tard, beaucoup plus tard, en 1979, avec d'autres résistants et déportés, il fonda le Musée communal de la résistance et de la déportation de Vénissieux. Musée qu'il anima en y recevant des milliers d'écoliers jusqu'à ces dernières années. Nous allons donc évoquer son parcours et ses luttes au fil de ces 4 émissions. Notre première émission est consacrée plus précisément au thème de l'histoire de sa famille et de ses origines, sujet qui n'est jamais sans relation avec les choix de la vie adulte de chacun de nous. Et ce sujet nous mènera jusqu'au début de la guerre, période où, très jeune, il travaille déjà en usine. Merci de votre attention et bonne écoute.
Il y en a qui font la mauvaise tête
au régiment.
Ils tirent au flanc, ils font la bête
inutilement. Quand ils veulent plus faire l'exercice et tout le fourbi, on les envoie faire leur service à Biribi, à Biribi.
À Biribi, c'est en Afrique où que le plus fort est obligé de poser sa chic et de faire le mort.
Ou que le plus malin désespère de faire chibi, car on peut jamais se faire la paire à Biribi, à Biribi.
À Biribi, c'est là qu'on marche,
faut pas flancher.
Quand le chaouche crie en avant-marche,
il faut marcher. Et quand on veut faire des épates, c'est peau de zébi. On vous met les fers aux quatre pattes, à Biribi, à Biribi.
À Biribi, c'est là qu'on crève de soif et de faim. C'est là qu'il faut marner sans trêve jusqu'à la fin.
Le soir, on pense à la famille sous le gourbi. On pleure encore quand on roupille à Biribi, à Biribi.
On est sauvage, lâche et féroce quand on en revient. Si par hasard on fait un gosse,
on se souvient. On aimerait mieux quand on se rappelle ce qu'on a subi. voir son enfant à la nouvelle. Kabiribi, Kabiribi.
Monsieur Jeannin, bonjour. Je vous remercie de me recevoir pour Radio Canu, pour cet entretien au cours duquel nous allons évoquer votre vie, votre parcours, votre action aussi. Bien sûr, pendant la guerre et la résistance, on va peut-être commencer par parler un peu de votre enfance, là où vous êtes né, quand, votre jeunesse.
Tout le plaisir est pour moi.
Vous êtes né où ? À Vénissieux.
En ces lieux.
Et à quelle date ?
Vénissieux, je suis natif de Vénissieux en 1926.
Vous avez...
Rejoindre les chiffres, le 26-6-26.
C'est facile à retenir, ça.
Facile à retenir.
Voilà. Donc, votre enfance ici aussi ?
Mon enfance, très peu à Vénissieux, plutôt au Moulin avant.
Ah, oui.
Quand mes parents, parce que mes parents étaient natifs d'Algérie. Ça, c'est toute une histoire. C'est toute une histoire.
Oui, on peut en dire deux mots.
Mais mes parents étaient en pied noir, puisque le pied noir, c'était, je considère comme ça, moi, le propriétaire terrien, à qui le gouvernement français avait donné des terres et les a fait cultiver, ces terres, par des déportés. Quand on parle de la déportation de 1940, il faut parler aussi de la déportation d'après 1830. Puisque, à l'époque, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec Bugeaud, Thiers, je crois, et autres, on a fait ça sous De Gaulle, quand il y avait des problèmes. On envoyait les gens en Corse pour débarrasser le territoire, pour pas qu'ils créent des problèmes. Après, on les ramenait en France. Vous avez connu ça, j'ai connu ça. Et à l'époque, les contestataires, les anti-napoléoniens, on les déportait en Afrique du Nord. Alors, il s'est trouvé que ma famille...
Vos aïeux étaient déjà des contestataires.
Alors, du côté de ma lignée maternelle, c'était les... qui habitaient en Alsace, c'était les Kaipers. Et les Kaipers étaient contre le régime. Ils ne sont pas enquiquinés, ils les ont pris. Et comme on venait de récupérer l'Algérie, ils ont envoyé en Algérie. Donc ça, c'est la partie alsacienne qui est partie en Algérie. Du côté paternel, chez les Jeannin, qui était Virieux-sur-Bourbre, dans les fins fonds de l'Isère, qui était aussi anti-napoléonien, s'est débarrassé d'eux. On les a envoyés aussi, le grand-père Jeannin, on l'a envoyé aussi en Algérie. On l'a envoyé dans le canton d'Oran. Et puis, puisqu'on est en Europe, il y avait aussi les Espagnols qui, sans avoir Napoléon, avaient leur roi. Et puis, comme dans tout pays, vous avez des contestataires. Et en Espagne, il y avait les anti-royalistes. Et chez ma grand-mère, mon arrière-grand-mère maternelle, c'était des anti-royalistes qui ont été également déportés au Maroc espagnol. Alors vous voyez, vous êtes vraiment dans un milieu de déportés depuis 1830. Au Maroc espagnol, les Ribera, puisque c'était leur nom, ont réussi à se sauver du Maroc et traverser et venir en Algérie. Aussi dans le canton d'Oran, Alger, du Mélose. Les Janins et les Kaipers se trouvaient là aussi. Et puis, ce qui devait arriver arriva, les Janins, les Kaipers et les Ribéras se sont rencontrés. Mon arrière-grand-mère, Victorine Kaiper, a eu mon père, Victor Janin. Du côté des Espagnols, ma grand-mère Ribéra, il y a eu ma mère. Mon père et ma mère se sont rencontrés et ont fondé la famille Janin.
Tous ces gens-là étaient dans l'agriculture à l'époque ?
Non, c'était de la main-d'œuvre. Ah. T'es pas du tout agriculteur, puisque, pour vous faire l'injure de vous raconter, mais on a distribué les terres aux riches et on a fait travailler les pauvres. Et les pauvres qui étaient-ce ? C'était les contestataires que l'on obligeait de travailler à tel ou tel endroit. C'était de la main-d'œuvre. C'était des déportés. À l'époque, on n'employait pas ce terme, mais c'était des déportés que l'on embauchait pour les... Et ensuite, quand même, il y a eu des évolutions. Les Janins se sont trouvés cinq frères. Les quatre frères ont été plus malins que mon père. Le grand-père avait réussi à avoir des terres et les quatre frères ont réussi à s'approprier ces terres au détriment de mon père. Et mon père s'est trouvé ouvrier comme tout le monde. Et les frères, eux, ont reçu l'héritage de leur grand-père, de leur père. Non. Et les frères ont bénéficié de cet héritage, sauf mon père. Mon père, il a fallu qu'il travaille. Et puis, arrive un moment, il y avait d'autres personnes qui avaient été également déportées, dont aussi des gens qui avaient, à l'époque, habité Vénissieux, et qui c'était les Tourins. Je cite les Tourins parce que ça a été nos amis les plus proches, tout au moins pour mon père. Et le Paul Tourin a dit à mon père, je vais aller en France et je vais chercher de l'embauche. Si je te trouve du travail, parce qu'en Algérie, ils crevaient de faim. Ils étaient considérés comme pas plus que les Arabes. Alors que mes oncles, moi quand mes oncles venaient en France, moi en fait pour confiance tout petit, je partais dans un coin et on me renvoyait que le soir. Je ne pouvais pas voir mes oncles en peinture. Mon père racontait quand même. Et ça me restait, moi. Et vous verrez après mon père, le lien avec mon père. J'ai eu un grand lien avec mon père. Alors, Paul Tourin est venu en France, est venu à Lyon, a atterri à Vénissieux, et par des copains, par des amis, il a réussi à avoir un contact avec Berlier et trouver du boulot chez Berlier. Alors, il a dit, j'ai des amis. Alors, à l'époque, Berlier embauchait.
On était vers quelles années, là ?
1923-1924. 1923-1924. Puisque Paul Tourin a fait savoir à mon père qu'il pouvait venir à Vénissieux, qu'il avait du boulot. Et mon père est venu en 1925 à Vénissieux. Et j'ai dû être confus soit sur le bateau...
Juste à l'arrivée, pour fêter ça.
Pendant, vous voyez, loin, pas loin. Et je suis né en 26. Mais en Algérie, mes parents avaient déjà eu mon frère Jean-Victor et ma sœur Marie-Rose. Alors, il avait même trouvé un local chez la ferme Payet. Pour les habitants de Vénissieux qui connaissent la rue Antoine Billon, il y avait la ferme Payet, qui était un fermier de Vénissieux et marchand de charbon. Ils étaient les deux. Et le père Payet avait donné le premier étage juste au-dessus de l'écurie à mes parents. D'ailleurs, je ne peux pas vous dire ce qu'il y avait exactement. Une chambre, une cuisine, deux chambres. Bon, on était là, les deux aînés et moi qui arrivais. Donc j'ai grandi là.
Ils ont eu d'autres enfants après vous ?
Mais au moulin avant.
Plus tard.
Plus tard, en 28 est arrivée ma sœur Augustine, qui est malheureusement morte, décédée, alors qu'elle envisageait de souhaiter ses 80 ans. Elle en aurait 82 maintenant, et elle est morte l'année avant ses 80 ans. Et mon frère, qui est né également à Moulin-Avant, Adolphe. Alors nous, la famille Jeannin, les cinq frères, on a les noms de tous les oncles. Moi, en Algérie, bien sûr, mon frère s'appelait Victor comme le père. C'était une tradition dans les familles avant. L'aîné avait le nom du père. La fille avait le nom de la mère, s'il y avait une fille. Alors, Jean-Victor pour mon frère et Marie-Rose pour ma sœur. Parce que ma mère s'appelait Rose. Rosa Benita Ribera. Il y avait un grand peintre, Ribera. Alors mon frère aîné, le nom du père, ma sœur, deuxième, le nom de la mère, moi, troisième, je suis né en 26. Les oncles, il n'y en avait plus guère. Il y a eu la guerre de 14 entre-temps. Alors moi, j'ai bénéficié, on m'a attribué le nom de Charles-Louis. Charles-Louis ont été, mes deux oncles, tués en août 1914 à la première bataille de Charleroi. Ils étaient dans les Zouaves. Alors on l'a assez appris à l'école. Les Allemands nous tiraient avec nos tenues bleues et pantalons rouges. Ils nous tiraient comme des lapins. Hein. Et mes deux oncles ont été tués en août 14, à la bataille de Charleroi. Et comme moi, je venais d'arriver, j'ai bénéficié de Charles et Louis. Ensuite, ma sœur est arrivée, et comme elle avait un oncle qui s'appelait Auguste, elle s'est appelée Augustine. Et comme il y avait un oncle, c'était le seul vivant, Auguste. Et il y avait un oncle, Adolphe, qui avait été tué aussi. Rémi Jeannin a laissé du monde.
Guerre de 14 aussi.
À 14. Il s'appelait Adolphe. Et mon frère, le cinquième, s'est appelé Adolphe. Alors, il y en a un nom de tous les oncles. Alors, mon frère Adolphe est encore de ce monde. Mon frère Victor est décédé il y a quelques années. Ma soeur Augustine, il y a 5 ans. Et puis mon frère, le dernier, Adolphe, qui est encore de ce monde, et qui partage son temps entre Vénissieux et Saint-Laurent-du-Pont.
Je meurs, mes amis, d'espoir et de misère. Vous m'ensevelirez sans cercueil dans la terre. Que m'importe le coin face au fil barbelé dans le trou d'obus neuf, marneux, roussi pelé, sous un peu d'herbe verte, ou dans notre tranchée, sous le tronc qui bénit de sa branche arrachée, sous le cheval crevé, sous le clocher flambé, mais gardez-moi le sol où je serai tombé. Vos yeux se mouilleront et vos mains maternelles auront des gestes doux pour me remplacer celles de ma mère dont les amours me manqueront, et vous disposerez mes cheveux sur mon front. Vos mots d'adieu seront la chaleur qui dorlote, et vous boutonnerez sur mon sang ma capote. Vous croiserez mes doigts, que je parte plus beau, comme un chrétien paisible au seuil du grand repos. Vous me couvrirez bien de terre parfumée, de celle d'où je viens et que j'ai tant aimé. Vous les pendrez sur moi comme un velours de mort. Son âme épousera la forme de mon corps, et fier de mes 20 ans, engrainé dans la glaise, je pourrirai content dans ma terre française. Puis sur mon tertre nu, vous mettrez une croix, vous prierez coude à coude d'une suprême foi, vous trouverez la plus sublime des prières, et mon tombeau sera plus grand qu'un cimetière. Vos gros doigts en tremblant rongeront mon massif, gravé par vos couteaux d'ornement très naïf. Enjolivez mon nom, vivra sur une branche, roi d'un palais d'éclat d'obus de pierre blanche. Sur le sol éventré, s'il sourit une fleur ou deux, portez-les-moi. Je préfère qu'un cœur de mes soldats me garde un peu d'amour qui veille. Vous écrirez mon âge aussi dans la bouteille. Quand vainqueur vous aurez retrouvé votre seuil, dites songeant à moi, sans retour, sans cercueil. Ces simples mots qui sont d'immortelles semences, c'était un brave gars, il est mort pour la France.
Et donc, à un moment donné, vous quittez la ferme de Vénissieux pour aller au moulin à vent.
Pas au moulin à vent, parce que le travail à la forge était difficile, était dur. Et mon père, il vient de travailler, il avait 5 enfants à nourrir. Et il a eu l'occasion de rentrer à Tubize, qui était une usine belge, qui était à Moulin-Avant, à Surville, qui donnait après relié à Seta. C'était une usine textile belge. Alors mon père est rentré là. Et ma mère avait assez de travail pour s'occuper des 5 enfants. Et 5 enfants, le père seul a travaillé. On n'était pas gâtés par les choses. C'est pour ça que quand j'ai passé mon certificat d'études, il a fallu d'abord demander une dispense, parce que j'ai appris à lire, je ne sais pas comment, mais j'ai appris à lire très tôt. Et mon père se mettait souvent devant la maison, la chaise renversée contre le mur, et il lisait son journal. Et moi, tout gamin, j'avais 6-7 ans, quand il avait lu son journal, qu'il le posait, moi j'allais le prendre et je faisais comme lui. Je mettais là la chaise et je lisais le journal. Et on avait une voisine espagnole qui disait « Regarde le gamin, il fait comme le père, il fait semblant de lire, mais il ne sait pas lire. » Ah, mon père disait « Mon fils sait lire. » À son âge, il sait lire, il a appris à lire, tout seul. Il peut me lire ça, il faisait. Et je disais, non, est-ce possible? Mais c'était vrai, c'était possible. Alors j'ai eu, c'était pas plus mal avec mes autres frères, mais j'ai eu cette volonté de vouloir.
Un goût de la lecture comme ça, très jeune.
Oui, de vouloir apprendre. Mais malheureusement, ce qui a manqué, c'est l'argent. Je n'ai pas pu suivre les études, les écoles, puisque l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et ça, on a fait la démonstration. Alors, mon certificat, a eu lieu, je me rappelle la date, puisque je suis du 26 juin, et le certificat d'études avait lieu en 1938, le 24 juin. Donc j'avais 12 ans moins 2 jours. Ouais. Et à 2 jours près, il fallait une dispense. Qu'a demandé le directeur de l'école, Henri Borde. Il a demandé une dispense. Et quand j'ai eu la dispense de l'éducation nationale, il avait fait la demande suffisamment tôt. J'ai pu passer mon certificat, que j'ai réussi.
L'âge normal, c'était 14 ans, non, à l'époque.
12 ans.
12 ans.
12 ans. C'était 12 ans à l'époque. Mmh. Puisque j'ai oui, 26 et 12, 38, c'était 12 ans. Mmh. Et puis, à 12 ans, mes parents m'ont mis à l'école à Saint-Fond, cours complémentaire, ce qui équivalait à la 6e, 4e, 5e, au lycée. Mais c'était, on appelle ça, à l'époque, le cours complémentaire. Cours complémentaire où j'ai fait un peu d'anglais, un peu de... Je me suis perfectionné, mais... Et à 14 ans, j'ai dit à mon père, je ne peux plus aller à l'école. Moi, je veux travailler, je veux apprendre un métier. Alors, il a fait une demande à l'école d'apprentissage de Berlier. Et à Berlier, j'ai passé un examen que j'ai réussi et je suis rentré donc chez Berlier à l'école d'apprentissage à 0,90 de l'heure, 18 sous de l'heure. Et on était toujours 5 enfants et toujours seul le père à travailler. Et on ne crevait pas de faim. Parce que mon père faisait un bout de jardin. Moi, j'étais le mal classé, moi. Moi, je suis un mec du milieu. Puisque les autres étaient trop grands, Victor et Marie-Rose, pour aider le père au jardin. Et les autres étaient trop petits. Il y avait qu'un qui était dans la moyenne. C'était moi avec mes 10-12 ans, donc j'aidais le père. Après l'école, j'allais pêcher, j'allais arroser, j'allais... Et puis, l'apprentissage. L'apprentissage, j'ai dit à mon père, je ne veux plus aller à l'apprentissage. Je vais aller travailler. Parce qu'avec 18 sous de l'heure, on manque de sous à la maison. J'avais 14 ans. Il faut que j'amène de l'argent à la maison. Mon père dit, t'es en apprentissage, tu y restes. Eh bien, j'irai plus à l'école. T'es cabochard. J'ai pris les triquets. Hein. Elles étaient méritées. Et je faisais telle école, là, j'allais plus à l'école.
Pourtant, cet apprentissage, ça devait vous conduire à avoir un emploi
mais à 18 sous de l'heure. Alors qu'à la maison, on manque de pain, on manque de viande, on manque de tout. Pardon. On manque de tout. Donc, il faut que j'apporte quand même de l'argent. Donc, il faut que j'aille travailler. Alors, c'est des noms qui restent. Le directeur de l'école d'apprentissage de Berlin s'appelait Sédou. Alors Sédou a envoyé une lettre à mon père. S'il ne reprend pas ses cours, on sera obligé de vous, pas de porter plainte, mais faire une rupture de contrat, puis vous faire payer des frais et tout ça. Alors mon père va le voir et il lui explique. Mon fils ne veut plus travailler, ne veut plus venir à l'école, il veut gagner de l'argent. Il explique sa situation. Sédou est un homme compréhensif. Sédou a dit, dans ces conditions, je vais rompre le contrat de travail, ça vous permettra de faire travailler votre fils. On a rompu le contrat d'apprentissage et je suis parti au boulot. J'avais le voisin, un bon voisin, j'habitais dans la cité Tubize, c'était des cités qui avait été monté par Tubize. C'était la cité Tubize. Et mon père avait droit, comme il avait travaillé à Tubize, il avait le droit. C'était dans des baraquements. Des baraquements où il y avait 1, 2, 3, 4, 4 et 4, 8 logements. 4 de chaque côté. Baraquements qui faisaient. Il y avait 4 appartements de chaque côté.
Petits appartements, quand même. Non, pas tant que ça.
Nous, on avait quand même 2 chambres, 2 chambres, une alcôve, 3 chambres. 3 chambres, une alcôve et une cuisine. C'était quand même 4 pièces. C'était pas du luxe. C'était tout en bois. On allumait la lampe en pleine nuit. Les lits étaient pleins de punaises. Le bois. Bref, alors, un de mes voisins s'appelait Raphaël de Barros. Il n'avait pas connu de Barros. De Barros, après, s'est occupé de boxe avec les femmes boxing club du Moulin à Vent, dans une salle que nous avait donnée la Tubize. Et Martin, son frère, boxait, Henri, Martin, et le frère de Raphaël travaillait donc aux aciéries de Longwy. Et en étant, il était passé président du club de boxe, il avait fait le club du Moulin à Vent, le boxing club du Moulin à Vent, marchait bien. Et il attirait les gens, les patrons pour leur pub, tout ça. Le sponsoring n'existait pas, mais il y en a qui étaient intéressés par le renom du Booking Club. Et Raphaël de Barros a connu des gens qui avaient de l'argent, Bon Enfant et d'autres, qui lui ont prêté de l'argent. Il a monté une boîte, les chaudronneries du Moulin à Vent, qui était vers la Petite Guille. Mais à l'époque, il travaillait aux aciéries de Longwy. Et il m'a fait rentrer aux aciéries de Longwy, où j'avais 3,50 francs de l'heure. Eh bien, je n'étais pas peu fier de ma première feuille de paye. Au lieu de 18 sous, je ramenais 3,50 francs. J'étais fier. J'étais fier de participer à la vie de la maison, à la nourriture de la maison.
Et vous faisiez quoi ?
Teneur de temps. Alors, teneur de temps, c'était 40-41, et on redressait des tôles de 20 mm, pour les chats qui allaient sur les chars. Alors, les tôles, quand elles sortaient de l'aminage, vous voyez et la minerie, hein. La tôle n'était pas impeccable, hein. T'es pas mort, il fallait redresser pour pouvoir construire, souder. Et j'étais teneur de tas. Je pesais 50 kilos. Hein. Alors, j'avais un gros chalumeau avec un bec de 1500. Je chauffais, ou on me disait de chauffer, et quand ça commençait à être rouge, l'ouvrier, en l'occurrence Raphaël de Barros, venait avec une masse, et moi derrière avec une autre masse, je tenais, et l'ouvrier était costaud, Raphaël, il avait une dizaine d'années de plus que moi. Il tapait la masse. Moi, chaque fois, j'encule 100 mètres.
C'est truc à devenir sourd, ça aussi, non? Ça devait faire un bruit épouvantable.
N'avait pas de casque, rien. Le syndicalisme n'avait pas évolué comme ça encore. C'était ça le boulot. Et ça me cassait les oreilles, hein.
L'usine qui turbine, la machine fait du bruit. De mes pièces qui se pressent dans la caisse, l'acier lui. Mécanique et cynique, je fabrique sans répit. À la chaîne, dans la peine, dans la haine du profit. Cigarette, allumette, chansonnette, ça va mieux. À misère sur la terre, pourquoi faire, nom de Dieu? Mais je baille, je traînaille, je travaille sans ardeur. Marche crève, pas de trêve, pas de rêve de bonheur. Chronomètre, contre-maître sont les maîtres du destin. Ils me mènent, ils m'entraînent, ils m'enchaînent mes deux mains. Les vacances, le silence, l'espérance des amours. La rivière sonne au clair, sa lumière, 15 jours. Et ce songe, ce mensonge me replonge dans l'enfer. Où nos rondes se confondent dans un monde tout en fer. Ma machine se débine dans l'usine, je la suis. Et mes pièces se redressent dans la caisse et s'enfuient. Mon amie, ma jolie, ma chérie, tu viendras. La 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 la. On s'aimera.
Puis ce journal, je vois, c'était en 42 ça, je vois Sigma en recherche de jeunes perfectionnants mécaniciens. Alors je dis à mon père, pourquoi j'écrirais pas? Alors j'ai écrit à Sigma. Et Sigma me répond de venir passer un essai. Alors je suis convoqué à Sigma. On passe un bout d'essai comme tourneur. On me donne un outil, tourner un bout de ferraille, essayer de faire. Je ne connaissais pas le tour, je connais. Mais il faut croire que j'ai été bon, ils m'ont embauché. ils m'ont embauché et ils m'ont mis au décolletage. Décolletage, où c'est un régleur qui vous réglait votre machine, les tours à décolleter, tours automatiques, automatique maintenant. On appelait ça tour à décolleter. Décolletage, il suffisait de mettre la ferraille là, dans le mort, et de mettre en route, quoi. Et je suis entré donc à Sigma le 6 mai 1942. Ça, c'est des dates qu'on se souvient. Et Sigma m'a embauché à 5,15 de l'heure. Alors, de 0,90, j'étais passé à 3,50, et de 3,50, j'étais passé à 5,15. Ben, j'étais fier. J'étais fier de l'amener. Moi, ça a toujours été mon souci que ma famille ne manque de rien. J'y suis arrivé, tant bien que mal.
Et à ce moment-là, la politique, vous étiez très jeune, mais vous intéressez pas encore, quoi. Vous avez vu la guerre.
Non, j'avais. Je vous disais tout à l'heure, nous étions cinq, et il n'y en a qu'un. Ça, c'est pas du baratin. Il n'y en a qu'un à qui mon père parlait de sa guerre de 14, c'était à moi. Il m'a raconté ce qu'il a vu en 14. Mon père m'a dit, et quand je l'ai lu ça aussi, mais mon père me l'a dit, donc si je l'ai lu et que mon père l'a dit, ça confirme ce que j'ai lu. Quand on a arrêté les déserteurs en 14, qu'on les pendait au crochet de boucher dans les voitures de gendarmerie. Mon père y a vu ça. Il me l'a raconté. Et c'est vrai, l'histoire le dit, ça. On a accroché les déserteurs. On les a... récupérés. Tous les déserteurs de 14.
C'était vers quelle période de la guerre en 17, les événements auxquels vous faites allusion?
16-17, oui, quand on a eu ces désertions, où les gens, même les Allemands, en avaient marre de se battre. Vous le savez, les Allemands en avaient marre de se battre, les Français en avaient marre de se battre, tout le monde en avait marre de se battre. Les Français désertaient, les Allemands désertaient, et les nations voulaient continuer la guerre. Les nations. Le capitalisme.
Bien sûr.
Ça l'arrangeait, donc fallait continuer.
Schneider et Krupp.
Fallait continuer la guerre. Alors on a pris des sanctions, on a fusillé. Je vous dis, on crochait de boucher.
Mais on les faisait mourir comme ça, ou c'était...
On les faisait mourir comme ça. Ils les pendaient, ils les prenaient à deux. Le gendarme, ils les accrochaient au crochet. Dixit, mon père. Mon père, c'était pas un menteur. Il y a vu ça. Et on leur disait aussi de fermer leur gueule. Sans ça, ils allaient y passer aussi. Mon père y a eu ça.
Il était où à ce moment-là, vous savez? Sur quelle zone, non? Oh,
je ne me rappelle plus quelle zone. Ouais. Ouais, t'es... Dans la Marne. Je ne me rappelle plus.
Donc lui, la guerre, c'est plus ces scènes-là qui l'ont marqué profondément que ce qu'il a dû subir, j'imagine, la vie dans les tranchées et autres.
Il était dans l'artillerie, mon père.
Donc pas en première ligne.
Heureusement, c'était pas une planque, mais c'était. Mais par contre, le soir, il restait pas inactif. Hein. Le soir, il ravitaillait avec les roulantes, il ravitaillait le front avec les roulantes et les chevaux. Et poum, poum, et les Allemands les mitraillaient, les bombardaient. Il n'a pas été blessé, il n'a pas été. Il s'est bien tiré de la guerre. Vous vous rappelez, avant quand même, avant 14, mon père, qui avait 20 ans à cette époque, a fait 3 ans de guerre du Griffe, 3 ans de guerre du Maroc, et que, quand ça s'est fini, qu'ils les ont rapatriés à Oran, vous verrez pourquoi la date. En vue du port d'Oran, ils faisaient les manœuvres pour pouvoir aborder, rentrer dans le port, quand le commandant du bateau a reçu l'ordre de faire demi-tour sur Marseille, la France venait de déclarer la guerre à l'Allemagne. Et le bateau, mon père, qui arrivait après 3 ans de combat au Maroc, qui arrivait pour voir sa famille à Oran, a fait demi-tour et a rejoint Marseille. Et donc il a fait 14. Il est allé une fois, il est mis en permission. Il n'a pas fait d'enfant. Enfin, qu'après. Et puis, la guerre de 14, c'est fini. Et ils sont rentrés en France. Ils sont rentrés. Ils étaient plus Berryer. Ou Tourin, ils avaient fait venir.
Obligé l'homme de la terre à quitter l'outil des labeurs féconds. Pourquoi s'étonner du train militaire qui va chez la mort remplir ses wagons? Pourquoi franchement ne pas dire au monde ce que chaque jour j'ai mis notre cœur? Le champ dévasté par la guerre immonde est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur. Ayant obligé les hommes des villes à suivre au charnier l'homme des sillons, pourquoi mépriser les hordes serviles dont les étendards sont des guenillons? Pourquoi de grands mots, de formules creuses, travestir des faits qui nous font horreur? Le champ moissonné par les mitrailleuses est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur. Ayant obligé l'artiste qui râle à laisser mourir son rêve chantant, pourquoi déplorer la chute brutale des temples bâtis par la foi d'antan? Pourquoi célébrer la grandeur du geste qui dans l'autre camp sème la terreur? Le chant qu'au vautour dispute la peste est un abattoir, plus qu'un chant d'honneur. Obligé des mains fraternelles à rougir de sang les fleurs du chemin, pourquoi poudrer d'or les funèbres ailes couvrant plein azur le mensonge humain? Tant nouveau progrès liberté, justice, miroir d'Histrion, hochet d'empereur, le champ couvre aux gueux, leur vain sacrifice est un abattoir, plus qu'un champ d'honneur.
Et pourquoi vous dites que vous avez une très forte, une très bonne relation avec votre père? Qu'est-ce qui a fait ça? Une question de personnalité, simplement, de l'un et de l'autre?
C'est le pif. Je vous ai dit tout à l'heure, mon père ne paraissait garde 14 qu'à moi. Il n'en a pas parlé aux autres. Parlez, moi. Quand il était bien avec moi, enfin bien, il m'appelait Charlouette. Tiens, Charlouette, viens voir avec moi. Alors on allait deux fois au jardin, on allait en travaillant. Ah, il me disait la guerre. Il disait que la guerre, il fallait jamais vouloir faire la guerre, parce que la guerre, c'est m'expliquer la guerre. Et pourquoi moi? Est-ce qu'il y avait un... Il sentait... Et j'ai haï la guerre, moi, comme je pense, comme personne ne peut la haïr. La guerre, quand mon frère est parti en 39, il est parti en 39 et il était pas de la classe 19, il est parti donc en 39. J'étais en pleine déclaration de guerre. J'ai pleuré. J'ai rien dit à personne. Oui, mais quand j'y pense maintenant, j'ai eu mon frère partir. J'ai dit, mon frère va mourir. Ils vont me le tuer. Pourtant, il n'était pas... Mon frère, c'était l'aîné. Il avait 7 ans de plus que moi. J'étais le merdeux. Il en avait 19, j'en avais 12. Donc c'était le... Mais on s'est jamais frictionné, non.
Il est revenu, lui, de guerre, ou il a été fait prisonnier?
Non, il est revenu. Il est revenu.
Démobilisé en 40.
Il est allé après... était remobilisé à Saint-Éric-la-Perche, où il était dans les une unité d'automitrailleuse, je sais comme ça. Mais les Allemands ont dissous, ils l'ont libéré, ils ont, vous voulez. Et ça a continué. Et moi, cette guerre, pour savoir comment je... J'étais dans un milieu, j'étais entouré, j'étais mal entouré. En bout de bâtiment, il y avait mon père, bon, qui était là. Derrière, il y avait, on l'appelait, ce nom lui est resté, on l'appelait 75, quand il avait une histoire à raconter. C'était toujours, il était dans l'artillerie et son 75. Il avait un 75. Alors, ce nom lui est resté 75. Et les deux barreaux à côté, et plus loin au bout, il y avait les Garcia, les frères Garcia, Antoine et Pedro. Antoine qui était marié, qui a un petit garçon joli. Sa femme était blonde et les garçons étaient blonds. Et c'était un bon, il était bien, Antoine Garcia. qui était parti à la guerre en Espagne, dans les brigades internationales. Ah oui, déjà le milieu, là. Des gens des brigades au bout, les Allemands. Alors, c'était... Ça faisait beaucoup. Ça faisait beaucoup.
Ainsi se termine cette première émission d'une nouvelle série de quatre avec le résistant et déporté Charles Janin. Cette première émission était consacrée au sujet de l'histoire de sa famille et de ses origines et de sa jeunesse jusqu'à la période du début de la guerre où, très jeune, il travaille déjà en usine. Vous avez pu entendre successivement les illustrations musicales suivantes. Un extrait de Abiribi de Aristide Bruant, interprété par les Quatre Barbus. Ensuite, Tichot interprétait sur des paroles de Paul Verlet une musique de François Garnier, Le Testament du Fantassin. Puis c'est Jacques Douai qui, sur les paroles de Huo et sur la musique de Paul Misraki, interprétait la complainte mécanique. Ensuite, sur un texte d'Eugène Bizot, mis en musique par François Garnier, Tichot chantait le chant d'honneur. Et enfin, c'était le traditionnel espagnol El Paso del Ebro. Dans notre future émission à lui consacrée, nous évoquerons cette année 1943, qui le verra déployer son activité de résistant jusqu'à son arrestation le 18 mars 1944. Nous remercions Charles Janin d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien à Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios, et plus particulièrement à l'intérieur de celle-ci, à l'émission Bistantlac. Bonsoir.
Quand il chante la femme, son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistantlac. pas gaver les enfants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, se mise en claque. Qu'une chance qu'on les vise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en main mettre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps. Qu'une chance qu'on les vise, mais on les claque.
Thank you.
il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. C'est pas de la rengaine, un gavelise passant, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est distant, clair. Le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les visse, mais on les claque. Bis dann, klar, können.